Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout un monde sur Radio Barthès. Là, on est à Solran-de-Trèves, connu pour ses traces de dinosaures, pour la ronceraie, mais aussi pour le plus rock'n'roll des brasseurs de Lozère, Bertrand, et sa bière, la Tarnonaise. Eh ben, on va aller faire un petit tour dans sa brasserie, il va nous parler de lui, son parcours, comment il brasse, c'est quoi les spécificités de sa bière. Hein? On va se mettre bien. On est chez toi, Bertrand, hein, dis donc.
On est bien chez moi.
L'hiver commence, ça se passe bien?
Ça se passe calmement.
Calmement.
Ouais, calmement. J'ai fini de ma production. Ah bah c'est ça enregistre.
Ah bah direct, hein, direct. Avec nous, ça.
Et ben j'ai fini la production. Des 200 hectos que j'ai brassés cette année, ben, fin novembre, donc là c'est plus ou moins les vacances, préparation des approvisionnements pour l'année prochaine, et voilà, et des menus travaux dans l'atelier aussi pour améliorer le confort de travail, voilà.
On rentre dans le vif, on va voir.
Allez, on est parti, ah, ouais, carrément.
Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Il transforme l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
C'est tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Barthès 107FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Alors, première pièce de la brasserie, le concasseur, qui permet de concasser les céréales, le malt d'orge en l'occurrence essentiellement, qui va se déverser dans la cuve de brassage. Donc voilà, il y a une trémie, c'est un concasseur, un aplatisseur à céréales que j'ai acheté d'occasion sur le COS, voilà, que j'ai adapté pour faire mon concassage pour la bière. Voilà, il y a un petit extracteur d'ambiance parce que ça fait pas mal de poussière, et puis c'est une pièce qui est isolée pour éviter d'avoir de la poussière, de la farine partout, parce que c'est, comme tu peux constater, c'est déjà bien poussiéreux, donc voilà, donc c'est une pièce qui est un peu pas sous vide mais sous pression pour pas que la poussière s'en aille dans les autres endroits de la brasserie.
Là, ça va directement donc dans les.
Ouais, il y a. Alors, on peut regarder direct. Hein, du coup, ça part par là. Et là, on est donc sur la mezzanine, donc au-dessus de la brasserie.
Ah oui, faut faire gaffe là. Voilà. On est à 5 mètres du sol là.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, on a une belle vue. Mmh. Et du coup, ce tuyau là, tu vois, je le descends avec le palan. Il vient poser sur la poutrelle de la cuve principale. Et puis, le malt descend directement dans l'eau. Voilà. Et il est brassé là.
Donc, ta cuve, elle est déjà remplie d'eau. Et après, ça arrive.
Voilà, exactement. L'eau, elle est à peu près à 50 degrés, entre 45 et 50. Elle est chauffée la veille pour ne pas avoir à attendre la chauffe le matin du brassage.
Ah oui, et la première étape, ça va être donc de mettre les sacs de malt d'orge ou de blé, hein, les céréales, pour les écraser, avoir une sorte de grumeau, et ensuite de pouvoir les hydrolyser plus facilement. Tu fais combien de litres avec cette cuve?
Alors cette cuve-là, elle fait 2000 litres, et au maximum, à l'ébullition, elle doit tourner vers les 1200, 1300 litres, pour un objectif final à l'embouteillage de 1000 litres. Entre 1000, 1100, c'est à peu près à la moyenne. Forcément, il y a des pertes entre toutes les étapes. Donc généralement, dans cette cuve-là, en fait, en gros, standard, on va dire, sur une bière à peu près à 5,5, il y a 1000 litres de flotte là-dedans, dans la grosse cuve de brassage. Il y a 250 kg de malt. Voilà, et après il y a aussi une cuve d'eau qui permet de rincer le grain, c'est une étape de filtration et de rinçage qui permet de récupérer du sucre et du volume, et le tout mis ensemble, et ça fait un final de à peu près 1000 litres.
L'eau, je sais qu'elle vient de la source de Saint-Laurent-de-Trèves, c'est bien ça?
Ouais, c'est les sources de captation communale du bassin de Lacan, là, de Ferrières, donc ouais, c'est l'eau du village. Elle est trop bonne. Donc du coup, après, elle n'a pas forcément toutes les caractéristiques idéales d'une autre brassage, mais ça le fait bien. Voilà.
Et ton malt, il vient d'où alors ?
Le malt vient du Tarn. C'est une malterie artisanale qui s'appelle la malterie du Vieux Silo. C'est quelqu'un qui s'est installé à peu près en même temps que moi. Enfin, ça fait une dizaine d'années, 10-15 ans qu'il malte. C'est un des premiers qui s'est installé. Qui fait, en fait, qui a un peu une échelle à taille humaine. Ils doivent être deux à faire je ne sais pas combien de tonnes de malt, peut-être une 100 ou 150 tonnes de malt par an. Donc il a une, on va dire, une petite production, même si ça engage quand même un peu de la surface et puis un peu des volumes. Mais moi j'avais été le visiter quand j'avais été le voir pour le rencontrer, et puis j'avais d'autres choses à faire dans le secteur, et du coup j'en avais profité, j'avais été le voir, on avait discuté, on avait bien accroché aussi, et puis du coup voilà, ça restait un humain qui travaillait, que je pouvais rencontrer, avec un autre humain qui utilise sa matière pour faire d'autres choses. Donc je trouvais ça sympa. Et puis bah, comme c'est la Tarnot, et puis que bah, c'est dans le Tarn, et que les céréales sont poussées dans le Tarn, donc toutes les céréales, c'est la coopérative céréalière du Tarn qui les produit, et donc lui il est malte, et voilà, et ça fait je pense une bonne dizaine d'années que je dois travailler avec lui. Voilà, donc ça reste là, on va dire la boucle est bouclée, hein. Nous on envoie l'eau du Mont Lozère vers le Tarn, et puis eux avec l'eau ils font pousser des céréales, et moi je récupère les céréales et je les brasse. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa dans l'idée. Voilà, avant j'ai travaillé avec d'autres malteurs plus industriels, des Allemands en l'occurrence, et aussi un peu français et belge. Mais l'idée, c'est quand même aussi de localiser le plus possible les matières autour de la brasserie. Bon, c'est pas toujours possible d'avoir tout à 10 km, mais bon, on va dire que dans l'idée, il faut essayer de se rapprocher d'une bière de terroir, en essayant d'avoir les matières premières qui soient le plus proche, puis en circuit court. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler avec lui, et puis que le malt aussi, il fait très bien. En fait, à l'époque, donc déjà, c'est tout en bio, et à l'époque, quand j'ai démarré, le malt Pilsen, donc le malt de base, existe en bio, mais aucun autre malt spéciaux. Donc c'était un peu compliqué, et lui il a fait toute sa gamme tout de suite, tout en bio. Donc il y avait tous les maltes spéciaux, donc j'avais pas allé commander le Pilsen bio quelque part plus les maltes spéciaux ailleurs. Du coup, ça me facilitait aussi la vie en termes de commande, et un interlocuteur, un producteur, boum, et puis j'ai tout mon malt pour l'année qui vient de chez lui, et c'est aussi facile à gérer. Voilà.
Ton malt va faire la couleur de la bière, c'est-à-dire une rousse, une blonde, une blanche. C'est le malt qui décide de ça.
Oui, c'est le malt, parce que bah, le malt, il y a toute une palette de colorations. Il y a comme une sorte de gros nuancier entre ce dont je te parlais, donc le Pilsen, qui est un malt très blond, qui est quand même la base de tout brassage de bière. C'est des malts qui vont pouvoir fournir du sucre pour la fermentation, donc développer l'alcool dans la bière. Et ensuite, on a tout un panel de malt soit caramélisé ou torréfié, qui vont aller du côté pain grillé jusque du noir intense comme du café. Donc, et à travers donc tous ces malts qu'on peut utiliser, il y en a, mais vraiment avoir un gros paquet. En fait, il y a une échelle de coloration qu'on appelle les EBC. Ça démarre donc de à peu près 2 jusque 900. Donc et donc plus on va vers des chiffres qui sont hauts, donc des EBC élevés, plus le malt est foncé voire noir, et plus on est vers le bas de l'échelle, plus le malt est clair. Et entre deux, bah il y a tout un panel de coloration, 150, 300, 600. Enfin voilà, il y en a tout un tas, et on peut choisir donc par rapport à la couleur, enfin le style de bière qu'on veut faire, et aussi par rapport aux arômes, parce qu'effectivement ils vont pas apporter tous les mêmes arômes. Des fois des notes de pain grillé, un peu de noisette, de miel, ça peut apporter des touches chocolatées, caféinées, réglisse. Enfin, il y a tout un panel de saveurs qui vont aussi s'ajouter au fait qu'on vient colorer la bière. Voilà. Donc bah, ça, après, c'est le brasseur qui décide de sa recette. Moi, globalement, enfin pour mes bières, c'est maxi... allez, en général, c'est 2 ou 3 maltes. Et après, sur des bières un peu plus complexes, genre sur la brune, j'aime bien pas mal mettre de maltes spéciaux. Donc là, ça peut monter à 5. Mais après, sur des blondes ou des rousses, un peu, voilà, je mets, y a en général 3 maltes. Ça va bien pour le style que je fais, quoi. Voilà. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on continue un peu
le voyage.
C'est tout un monde sur Radio Bartas, 107 FM.
Du coup, là, on est sur la mezzanine, c'est là que je viens stocker les matières premières. Donc, comme tu peux le constater, il reste pas grand chose en maths. Ça, c'est donc j'ai tout fini en fait, mais j'ai fini tout le volume de malt que je devais brasser de l'année, et du coup ça c'est les quelques sacs qui me restent. Bah là il y a le stockage du houblon, donc on peut voir ça. Voilà, j'utilise sac de houblon, donc ça vient de Bourgogne en bio. C'est un jeune qui s'est installé comme houblonnier il y a quelques années, et avec qui maintenant je travaille parce que c'est le copain d'un pote à moi qui est brasseur aussi. Du coup on s'est rencontrés, et maintenant en fait je fais venir mes houblons de Bourgogne, voilà, poussés là-bas sur les terres viticoles.
Mais du coup ça m'a
voilà aux vignerons, mais non je les aime bien les vignerons. Et voilà, et du coup bah comme je te disais, j'essaye d'être le plus en direct, voilà, pas faire venir non plus les matières de trop loin. Donc là c'est pareil, un des plus proches, puis bon je le connais aussi, donc c'est sympa.
Tu travailles pas du tout avec du houblon allemand?
En fait, il y a des variétés allemandes, mais elles sont poussées en France.
Okay.
Voilà. Après, j'avouerai que pour les IPA, je m'autorise du houblon américain. Mais bon, je fais 2 IPA par an, donc ça engage quoi, 10 kilos de houblon que je rachète souvent à des collègues pour juste les IPA. Parce que c'est vrai que bon, il y a quand même des saveurs assez assez typiques, assez spéciales et vraiment très très marquées. Et pour une IPA, j'avoue que ça marche quand même bien. Donc il y a toujours une base européenne de amérisante, mais souvent les aromatiques je les prends américains pour un peu quand même rehausser le truc. Et, mais voilà, c'est juste ça. Sinon en fait, si tu veux, les variétés elles portent des noms, donc il y a je sais plus combien, plus quasiment 200 variétés de houblon qui portent des noms tous à dormir dehors, mais il y en a plein, on en découvre tous les jours. Donc il y en a certains qui sont protégés, souvent les houblons américains sont protégés par un trademark, donc ils peuvent pas être poussés autre part que par ceux qui les ont créés là où ils sont aux États-Unis. Par contre, il y a plein de variétés, comme pour les légumes quoi, qui sont disponibles. Donc en fait, on peut faire pousser un houblon anglais, tchèque, allemand ou slovène en France. Voilà, donc en fait, c'est plutôt des houblons européens poussés en France. Il y a quelques variétés françaises qui sont développés en France essentiellement par la Copoudal et puis les chercheurs en agriculture. Sinon après ouais, ça reste du classique hein, en termes de variété.
Alors donc, question ouais, peut-être un peu stupide quoi qu'il n'y en a pas. Le rôle du houblon, ça va être quoi dans la bière?
Le houblon, il agit comme une épice en fait. Parce que si tu veux, par exemple sur une bière, je t'ai dit qu'il y avait 250 kg de malt, enfin en tout cas pour moi pour faire 1000 litres, ce que ça engage comme houblon en face, c'est plutôt vers les 3-4 kg.
Ah, oui.
Donc du coup, ça vient un peu comme une épice, comme du sel ou du poivre, mais en fait, il va venir apporter de l'amertume, ce qu'on connaît dans la bière, aussi des arômes un peu fleuris, ou souvent, enfin un peu les trucs typiques, c'est côté agrumes ou côté un peu oui souvent c'est un peu agrumes ou à peu près des notes de jasmin, des choses comme ça. Et il va aussi participer à la conservation de la bière parce qu'il a des propriétés aseptiques, donc il vient prolonger aussi et protéger la bière par ses propriétés chimiques quoi. Donc, à la base, ça a été utilisé surtout pour ça. Et après, ils se sont aperçus que c'était bon aussi. Donc, ça a fait double job.
L'utile à l'agréable.
Ouais, c'est pas si vieux que ça, le houblon. Hein. Je pense que c'est tout début, vers 1200 ou 1300, enfin 1300 après Jésus-Christ, bien sûr. Même si on faisait de la bière avant. C'est pas si vieux que ça. Et donc bah, dans cette sur cette mezzanine, bon, stockage de matière, capsule, etc. Enfin tout le un peu le petit matériel. Alors là on descend la brasserie en tant que telle, on va dire. On arrive dans le petit espace accueil. Et du coup j'ai fait un superbe panneau explicatif. Donc, du coup pour revenir à ta question, qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi les étapes? Et ben, on a parlé donc du concassage avec la monture, l'empannage à peu près à 50 degrés dans l'eau, et donc dans la grosse cuve qui se trouve à côté, la plus grosse dont on a parlé, il y a deux étapes principales. Donc il y a le brassage, où on va appliquer des paliers de température pour que les enzymes contenues dans le malt dégradent l'amidon en sucre, fermentescible ou non fermentescible, selon les paliers de température. Donc ça, c'est le brassage. Ensuite, il y a une étape de filtration, où on vient séparer les matières solides, donc la mouture initiale, du jus dans lequel elle trempe maintenant. Donc l'idée, c'est de séparer les deux. On va cuire, donc on va renvoyer ce jus dans cette même cuve, donc elle a été vidée, nettoyée, je renvoie le premier jus, et après on vient rincer le gâteau de drèche, c'est-à-dire le malt qui a été concassé, dans une cuve filtre pour venir extraire d'autres sucres et venir compléter le volume final. Donc en gros, je t'ai dit qu'il y avait 1000 litres dans cette cuve, dans la plus grosse des cuves à l'empattage, donc l'étape première. Et ensuite au rinçage, dans la plus petite cuve qui est juste à côté, il y a entre 500 et 600 litres d'eau chaude à peu près l'objectif c'est 78 degrés, qui viennent rincer comme on passe de l'eau sur une éponge pour enlever la mousse. De la même manière, on vient drainer du sucre pour ajouter au volume et venir compléter le brassin. Une fois qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on a tout notre jus dans cette fameuse cuve, on va faire une cuisson. Donc une cuisson à ébullition forte, à peu près 104 degrés. Et c'est à ce moment-là où on va ajouter le houblon. Dans un premier temps, donc au début de l'ébullition, ce qui va permettre, donc là c'est des houblons qui sont amérisants, qui vont permettre, forcément, comme leur nom l'indique, de donner l'amertume à la bière. Et il y a un houblonnage un peu tardif en fin de cuisson qui va permettre d'apporter plutôt les notes aromatiques. Voilà. Donc ça intervient à ce moment-là. Donc pour un brassin, je vais dire c'est à peu près 1,5 kg d'amérisant, 1,5 kg d'aromatique, ça dépend un peu des recettes, ça peut varier en fonction de ce qu'on fait et en fonction des brasseurs. Et l'étape qui suit, donc une fois qu'on a fait la cuisson de tout ça, à peu près un peu plus d'une centaine de degrés, on va venir, filtrer le houblon pour qu'il n'y ait plus de matière solide dans le jus sucré houblonné. Donc on va filtrer et on va refroidir la bière à l'aide d'un échangeur à plaques. Donc c'est une sorte de radiateur de voiture, sur le principe, c'est-à-dire qu'il y a de la bière chaude qui rentre dans cet appareil, donc et de l'eau froide qui rentre dans l'autre sens. Et il y a un échange thermique qui se fait entre les deux circuits qui permet à la bière de refroidir à peu près à 20 degrés, et donc à l'eau de capter l'eau froide, de capter la chaleur pour refroidir la bière. Donc on va se retrouver dans la cuve de fermentation avec un moût à 20 degrés qu'on va venir ensemencer avec des levures brassicoles, la fermentation principale, fermentation en cuve, elle va durer à peu près 12 jours. Donc il y a 8-9 jours à 20 degrés, et après on appelle ça un cold crash, c'est on donne un coup de froid pour pouvoir un peu précipiter encore les quelques matières, un peu les particules en suspension, de venir clarifier la bière et même de faire un peu sédimenter les levures. Voilà, donc au bout de ces 12 jours, en tout cas en ce qui me concerne dans mon process de brassage, parce que ça peut varier un peu selon les pratiques, on va pouvoir embouteiller la bière. Donc ce qui nous donne le signal que c'est fini, c'est la mesure de densité de sucre résiduel qui reste dans la bière. Donc je fais des prélèvements dans les cuves régulièrement pour constater qu'en fait il n'y a plus d'évolution de cette densité relative. Donc que les sucres ont été consommés et qu'il n'y a plus de fermentation. Donc à partir de là, je vais transférer ma bière dans ce qu'on appelle une cuve de sucrage, qui est globalement la cuve qui sert un peu à tout, c'est-à-dire la cuve de brassage. Voilà, donc elle sert aussi en cuve de sucrage. Je vais rajouter du sucre blanc, alors du sucre soit de canne, soit de betterave bio, c'est selon les bières, parce qu'en fait ça mène pas les mêmes résultats gustatifs. Et je vais grammer à 6,5 grammes au litre pour relancer une fermentation en bouteille, donc une refermentation. Et les levures qui étaient donc endormies parce qu'il n'y avait plus de sucre à manger vont se réveiller, vont manger le sucre que j'ai rajouté dans la bière. elles vont redémarrer et produire du gaz carbonique, ce qui va faire la pétillance et la carbonatation de la bière. Voilà, donc voilà le process. Et ensuite, ben après c'est le stockage, il faut à peu près, selon les conditions, température de stockage, on va dire en gros un mois de refermentation dans des conditions, on va dire, standards, pour que la bière soit prête à consommer.
Donc là, un mois en bouteille, hein, c'est ça?
Un mois, ouais. Un mois.
C'est pareil, c'est toi qui décide un mois, ou alors c'est un peu général?
Ben, c'est un mois, ça dépend. En fait, je fais des prélèvements pour m'apercevoir de où ça en est. Après l'été, même en 15 jours, c'est prêt.
Ah oui.
Parce que ben, la température de l'atelier, elle est plus vers les 22, 23 degrés. Et là, actuellement, bon, ben voilà, quand on est en plein hiver, il fait plutôt 9, 10 degrés. Ben, les levures, elles ont un peu de mal à redémarrer. Donc ça leur demande plus de temps pour repartir. Et du coup, ça peut prendre plus longtemps. Mais j'ai mis un mois parce que, bon, voilà, c'est...
moyenne.
Voilà, mais des fois, l'été, en 15 jours, 3 semaines, elles sont prêtes, les bières. Hein. Mmh. Et l'hiver, ça prend un peu plus de temps. Là, j'ai testé mes nouvelles bières, parce que j'ai brassé le mois de novembre. J'ai fait des nouvelles bières. Et elles ne sont pas toutes au même stade de fermentation. Il y en a qui sont plutôt pas mal. Il y en a qui sont partis. Voilà, c'est beaucoup plus lent. Ça, c'est le grand projet de ma vie maintenant, c'est une étiqueteuse automatique, parce que du coup ça fait quand même combien d'années maintenant, 14 ans, enfin 13 ans que je brasse, et que ça fait quasiment 12 ans que je pose des étiquettes à la main. Et encore, là ça s'était amélioré, parce que c'était des étiquettes autocollantes, mais avant j'ai fait 10 ans avec pinceau, colle et coller toutes les étiquettes à la main. Ça prend un certain temps, c'est pas forcément hyper intéressant. Et la contrainte que j'avais, c'est que moi je recycle, je recycle mes bouteilles depuis le début que j'ai démarré. Donc soit par moi-même pendant 10 ans chez un collègue qui avait une machine qui permettait de le faire. Et du coup, il y a une sorte de scope qui s'est créé en Occitanie pour le lavage et le recyclage des bouteilles, donc en vin et en bière. Okay. Du coup, j'ai pu passer en étiquette autocollante, mais je n'avais toujours pas de quoi poser des étiquettes. Donc c'était soit à la main, soit je taxais, justement, je remercie mon ami Sylvain Le Vigneron qui m'a prêté son étiqueteuse pendant quelques temps, mais c'est pas très rapide et c'est pas non plus hyper passionnant. Donc dernièrement, c'est-à-dire pas plus tard que ce week-end, j'ai fait l'acquisition de cette machine qui permet de... la machine non, mais l'arrivée de la machine oui. Donc là c'est magique, donc là je vais pouvoir arrêter de perdre du temps à coller des étiquettes. Et du coup ça reste toujours le même principe de laver, parce que c'est les étiquettes maintenant qui sont sur rouleau autocollante, elles sont spéciales, elles ont un papier spécial et une colle lavable. Donc je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire gagner du temps et on va dire m'emmerder la vie à certaines tâches, vu que d'autres vont le faire à ma place, donc c'est pas mal.
Yes.
Ça coûtera un peu plus cher, mais pas tant non plus. Mais parce qu'au final, le prix du verre neuf a vachement augmenté. Et donc maintenant, en fait, on est gagnant, en fait, financièrement, à faire du recyclage de bouteilles. Alors qu'avant, c'était plutôt un principe de base, parce que j'ai toujours fait et que je n'allais pas arrêter. Et que je ne gagnais pas forcément beaucoup plus à prendre du lavé que du neuf. Mais maintenant, il y a un écart qui est non négligeable. Donc voilà, donc là, toutes les nouvelles bières que j'ai produites cet hiver, là, au mois de novembre, elles ont été embouteillées dans des bouteilles recyclées. Voilà. Donc c'est bien. Et puis ça envoie du gros lourd. Donc je vais pouvoir étiqueter comme un ouf. Et puis voilà, ça va être super. Ça va être super.
Alors derrière nous, il y a deux autres cuves, deux grandes cuves. Là, ouais. À quoi elles servent?
C'est les cuves de fermentation.
Ah oui,
donc c'est des anciens tanks calés que j'ai achetés dans les fermes. Et il y en a une qui vient du Nord et il y en a une qui vient du Jura. J'ai fait une petite tournée des fermes laitières et j'ai acheté ces deux tanks de 1200 litres pour pouvoir faire fermenter la bière. Mmh. Voilà.
Et donc, tu disais, sur 1200 litres, tu sors combien de bouteilles?
Ça dépend de la répartition entre les 33 et le 75, mais on va dire en moyenne, il y a 2000 bouteilles. Il y a à peu près 1000 bouteilles de 33 et 700, 800 bouteilles de... En gros, un brassin, c'est 2000 bouteilles, on va dire. On va arrondir Voilà, avec deux tiers, un tiers de 75 centilitres, un tiers de 33 centilitres. Voilà.
Là, aujourd'hui, tu brasses, alors moi j'en connais 5, je crois. T'es encore à 5 bières ou ça a monté là?
Je suis plutôt vers les 7, je crois. Donc je fais, ouais, en gamme standard, je fais blonde, blanche, rousse, brune, IPA, châtaigne. Donc ça, ça fait 6. Et là, on peut en rajouter 2 pour cette année parce que des fois, ça me pète de faire des bières éphémères. Donc, donc là, les 3 dernières que j'ai brassées, donc c'est la brune, mais ça, c'est, on va dire, classique parce que il y en a une par an. Et voilà, c'est l'hiver que je la brasse. Et j'ai fait une bière aux 4 céréales. Donc une sorte de triple, pas vraiment triple, mais une 4 céréales un peu costaud. Donc avec du blé, de l'orge, du seigle et de l'avoine. Et j'ai fait une autre bière, une bière blonde, au miel d'arbousier et au houblon sauvage. Voilà, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir ce miel d'arbousier que j'avais déjà testé auparavant sur un petit brassin, et ça m'avait plu parce que ça donnait des notes de miel sans prendre le dessus. Donc je trouve que c'était assez sympa parce que je suis pas fan des bières au miel. C'est souvent un peu sucré, un peu trop présent, mais là, ce miel-là, il marchait bien. Et c'est pareil, j'ai une collègue là qui est maraîchère sur Balsiège, et qui a un pied de houblon sauvage qui a poussé dans sa serre. Génial. Voilà, donc elle m'a dit « ça te dit pas de tester une bière avec le houblon qui pousse sur mes tomates ?» J'ai dit « bah ouais, ok ». Et moi j'ai aussi quelques pieds en haut dans ma jardinière, là, un peu rachitique, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques cônes cette année. Donc tous ces houblons-là ont participé à faire cette bière au miel et au houblon sauvage, qui est pas mal. Après, elle n'est pas encore prête, mais je pense que ça va être sympa.
On s'envoie une petite bière et on parle de ton parcours.
Ouais, si tu veux.
Un peu de dégustation. Tiens, on fait une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter?
Ouais. Et j'ai dit que tu étais le plus rock'n'roll des brasseurs.
Ouais, je pense. Il y en a peut-être d'autres, mais là, dans l'autre secteur, ouais. Je sais pas. Tiens, un petit Mr. Bungle.
Allez, Mr. Bungle, c'est parti. We'll be right back. C'est tout un monde sur Radio Bartas, 107 FM. Alors là, on est dans ton petit bar. Hein. Je ne sais plus dire. Ça fait combien de temps que tu l'as ouvert ?
Je l'ai ouvert en 2020.
Est-ce que ça apporte un plus quand même d'avoir un petit point de vente comme ça ? Est-ce que les touristes, etc., peuvent débarquer ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Déjà, un lieu convivial à Saint-Laurent.
Voilà. Alors déjà, l'idée, c'était quand même... bon, après, j'étais un peu utopiste sur l'affaire, mais bon, je me disais, en fait, le truc, c'est que moi, les marchés d'été, ça me saoulait, trop de monde. Et qu'en fait c'est la période la plus chargée en brasserie, donc en fait je me retrouvais un peu on va pas dire en burn-out, faut pas déconner, mais à courir partout, et puis du coup c'est pas, voilà, de pas être forcément tout le temps en comptant tous les jours. Et en fait j'avais cet espace là qui servait plus ou moins à rien. Et pendant le confinement, j'avais un peu le projet, j'ai dit, ben, au moins comme ça, l'été j'arrête de faire les marchés, j'ouvre un lieu d'accueil là à la brasserie, et puis je vais en direct, et puis du coup, bonheur quoi. Moi je suis au frais dans la brasserie, je reçois des gens, je peux parler avec des gens tranquilles, sans avoir 15 000 personnes sur la place du marché. Donc du coup voilà, donc c'était l'idée. Après j'avais aussi l'idée d'ouvrir à l'année, mais force est de constater que c'est pas possible dans nos contrées d'ouvrir à l'année, donc bah, je me suis contenté d'ouvrir juillet-août. Donc en fait c'est un bonus quoi, parce que tu vois, c'est dans l'atelier, je paye déjà le loyer, j'ai juste utiliser un espace qui était un espace à un gros foutoir, ouais. Voilà, et du coup maintenant il sert à quelque chose.
Ouais,
et
puis c'est convivial, c'est bien, c'est en bois, c'est chaleureux.
Ouais,
quoi.
Voilà, puis bah, moi je suis bien là aussi, parce que quand je brasse, bah voilà, j'ai un petit endroit sympa. Quand il y a des copains qui passent, bah, on peut se boire un coup, même quand c'est pas ouvert, quoi. Enfin voilà, ça reste un lieu aussi privé, on va dire hors saison, et puis après j'ai des horaires d'ouverture juillet-août. Tous les jours, en fait, c'est ouvert tous les jours juillet-août, l'après-midi. Et là, effectivement, la clientèle, elle est quand même assez touristique. Essentiellement, il y a un peu des locaux qui viennent, mais pas tant, parce que bah, c'est vrai que le truc, c'est qu'à Florac, il se passe pas mal de choses déjà, et les gens, c'est un peu un point de rendez-vous, donc bon, après, d'aller venir ici, ouais, pour être peinard, et puis un peu changer d'air, ça le fait, mais c'est surtout des gens qui sont en villégiature pendant les vacances qui viennent. Voilà.
Ouais, puis on est tous overbookés l'été, voilà, laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'on s'ouvre ?
Alors, je te propose, toi, amateur de brune, la nouvelle brune.
Ah,
voilà. Du coup, elle est un peu différente de celle de l'année précédente. Elle est plus chargée en malt spéciaux, donc elle a un côté céréalier plus prononcé, elle est plus dense au niveau... céréales, quoi. Elle est assez puissante. Un peu plus amère aussi, parce que j'aime bien l'amertume, et c'est un peu compliqué de sortir d'amertume dans des bières brunes, parce qu'il y a déjà tout un tas de maltes spéciaux qui donnent déjà des arômes hyper puissants. Mmh. Mais j'ai réussi à faire sortir aussi. Le petit défaut, entre guillemets, c'est qu'elle est un peu moins alcoolisée que ce que j'avais prévu.
Elle
fait 7,2.
Ouais,
ça reste correct.
Ouais.
Et voilà, les dernières étaient plus alcoolisées, mais bon, c'est pas
ouais,
plus mal.
8,5. 8,5, ouais, même. Ouais.
Et voilà, oui, la recette, elle a un peu changé, mais globalement, on reconnaît bien le. On reconnaît bien la brune, quoi. Alors, on va attaquer ça.
Voilà. Oh, c'est double.
Et là, ce qui est magique, c'est que bah, cette époque-ci de l'année, dans l'atelier, tu la prends, hop, elle est prête, direct. Elle est à bonne température, t'as rien à faire. Pas besoin de la mettre au frais, quoi, c'est impeccable.
Ouais, jolie mousse déjà. Hein.
Une belle mousse chamois foncé.
Ouais. Ah ouais, parfaite.
Ouais, pas mal. Hein. Et là, elle est toute jeune, elle a 2 semaines.
Donc, ok.
Du coup, elle est partie vachement vite.
Ouais.
Et on peut déjà en profiter.
Hop. Eh ben, la tienne. Hein.
Comme d'hab, hein, on essaye de pas voir le soleil à travers la bière, du coup, ça marche. Mais c'est bien. La santé.
Santé. Alors. Alors, premier goût qui me vient direct, c'est le café.
Et ouais. Café, un peu choco, mais c'est vrai qu'elle est plus sur le torréfié que l'année dernière.
Ouais.
L'année dernière, j'avais un malt spécial En fait, je me suis un peu gouré dans la recette.
Ça arrive.
Et au lieu de mettre, je sais plus ce que je mettais, 5 kilos, j'ai mis un sac de 25 kilos. D'un malt qui donne, il donne un côté torréfié assez puissant. Parce qu'en fait, le malt noir, le malt choco que j'utilise pour donner, il va vraiment donner des notes de un peu plus douces. L'année dernière, était plus douce. Et là, il y a les plus âcres. Que, mais à cause de ce malt-là. Mais moi, j'aime bien. C'est, ça renforce un peu. Elle est présente, quoi. C'est pas.
Ouais, c'est tout à fait ça. La présence, c'est tout à fait ça. Et l'arrière-goût, pas tant d'amertume que ça. Hein. Moi, je trouve que c'est le bon équilibre. On n'est pas dans un truc.
Non, c'est pas hyper amer, mais c'est plus amer que celle d'avant. Et du coup, ceux qui l'ont déjà goûté m'ont fait la remarque. Mais bon, c'est normal, vu que j'en ai mis plus. Donc, a priori, ça a marché.
L'idée, c'est de rester sur cette recette-là et que ça devienne ta brune, ou alors est-ce que tu vas revenir un peu sur ce que tu faisais?
Non, parce que si tu veux, l'année dernière, en fait, c'était une bière de ce que j'appelle la bière de fond de sac. C'est-à-dire que c'était la dernière bière que j'avais brassée, et j'aime bien finir en décembre où il n'y a rien sur la mezzanine, parce que comme ça, je peux faire le ménage, je range les trucs, et du coup, il y a moins quand il reste des tas de sacs. Et donc là, il me restait. Donc j'avais fait une bière de fond de sac, donc j'avais une base que je me fixe tout le temps à peu près. Et là, il me restait, dans celle de l'année dernière, il me restait un fond de châtaigne séché. Il me restait, j'avais du seigle qui traînait, j'avais un peu des maltes à droite à gauche, j'ai tout balancé dedans. J'ai tout mis dedans, et en fait, quand j'ai regardé la recette, j'ai dit, allez, merde, en fait, je peux pas la refaire. Du coup, j'ai un peu modifié. Et voilà, c'est tombé là-dessus. Mais celle-là, c'est plus, on va dire, standard, parce que celle-là, je les ai tous les ans. Donc le coup de la dernière fois, c'est parce que j'avais récupéré, j'avais encore des fonds de sac qui traînaient, et puis j'avais tout foutu dedans, j'y allais. J'avais foutu, et là, j'avais galéré, c'était la dernière bière de l'année, j'avais galéré à la brasser, surtout à filtrer. J'avais regardé, j'avais mis 400 kilos de céréales, 405 kilos. Alors que bon, la moyenne c'est 250, ouais. Et j'ai doublé. En fait, ça a bouché, tout bouché. J'ai dû tout vider à la pelle. Enfin, c'était un carnage intégral. Par contre, ça a été du nectar de bière, quoi. Donc c'était voilà, mais j'ai bien galéré. Donc cette année, je me suis dit bon, je crois que je vais me fixer une limite par rapport au système de filtration. Et du coup, je l'ai monté à 350 kilos. Et là, c'est passé. Mais l'année dernière, j'avais abusé, quoi. J'avais abusé à 400 kilos, c'était pas possible.
Comment elle a commencé cette aventure, là, il y a 13 ans? Parce que toi, t'es un ch'ti.
Je suis ch'ti.
Et chez lui aussi, ah.
Bah ouais, hein, moi je suis du Douaisis.
Voilà, et alors comment tu t'es retrouvé ici, dans les Cévennes
Je me suis retrouvé dans les Cévennes, en reconversion, en fait. Si tu veux, j'ai déjà à la base, enfin j'ai fait mes études, j'ai eu un cursus dans l'industrie automobile, ingénieur de production, et puis j'ai travaillé donc juste après mon service militaire, je suis rentré chez Toyota
à Honin,
c'est exactement Honin, mais à côté de Valenciennes, où j'ai démarré ma carrière d'ingénieur là-bas. Et je suis resté 8 ans là-dedans, en deux postes principaux, hein, du contrôle de production, et après j'ai fait de l'encadrement de production, et j'ai eu le premier boulot, c'était plutôt technique, et le deuxième c'était plutôt humain, et au fur et à mesure, je voyais plus trop de sens à ce que je faisais. Sortir des voitures toutes les minutes, je ne comprenais pas trop. Pas forcément tout le temps reconnu à sa juste valeur, ou entre le marteau et l'enclume. Ou... En fait, t'es un con pour ceux d'en bas et t'es pas assez bon pour ceux d'en haut. Enfin, globalement, hein, je résume, hein, je caricature, mais voilà, pas forcément de reconnaissance suffisante et puis de sens au boulot. Enfin, j'avais perdu en tout cas, que j'avais perdu. Et puis, donc ça c'est, on va dire, ma vie d'avant, mon métier d'avant. Et donc j'ai un copain à moi, donc du Nord, qui est venu s'installer ici. Et je suis venu, quand j'étais encore là-haut, dans le Nord, je suis venu toutes mes vacances l'aider à bidouiller sur son terrain, construire des trucs, etc. Et quand je voyais comment ça se passait par ici, que je voyais ce qui se passait là-haut, je dis, il y a un problème, là. Je dis, il y a un truc qui va pas, là. Je dis, du coup, le rythme de vie, la qualité de vie, le décor, Et tiens, je remontais là-haut, dans le nord, dans l'industrie automobile, là, quand je rentrais de mes 3 semaines de congé d'été, que j'avais passé donc forcément ici, là. Et il me fallait une semaine, 10 jours à me remettre, quoi. J'étais complètement dévarié, quoi. Et puis au bout d'un moment, je dis, bon, allez, il va falloir prendre une décision, c'est plus possible. Et puis, on m'a soufflé de faire de la bière, parce que j'étais gros consommateur de bière de base, mais j'y connaissais, mais vraiment que dalle. Donc pour moi, de la bière, c'était le houblon, alors que c'est pas du tout ça. Mais tu vois le niveau du mec.
Moi, j'ai quasi le même.
Hein, voilà, quand tu bois des lèvres, tu crois que tu bois de la super bière. Enfin, genre, j'étais à ce niveau-là, ouais, tu vois, c'était pas... Moi, bon, je commençais à grimper dans le niveau des bières, plutôt à prendre des trappistes, etc. Voilà, tu commençais à monter un peu le niveau, mais c'était. Mais de toute façon, à l'époque, même dans le Nord, il n'y avait pas non plus tant de microbrasseries. Tu avais Jeanlin, enfin, qui est une microbrasserie, une brasserie familiale, tu as la Choulette, tu as la bière Gusti, enfin voilà, tu en avais quelques-unes qui ont tenu, mais sinon, il n'y avait pas tant de trucs comme ça. Donc, même pour s'intéresser à ça, c'était compliqué. Et du coup, moi, je voulais descendre avec un projet, parce que je voulais pas arriver la fleur au fusil, pas savoir ce que je... Enfin, je voulais avoir... Et donc, j'ai passé plusieurs trucs dans ma tête. Au début, je voulais être cordonnier. Après, je voulais travailler dans les forêts, genre passer le concours de l'ONF, éventuellement. Et puis, ce fameux copain, il m'a dit, mais tu devrais faire de la bière et tout. Il en manque à fond, t'adores ça et tout. J'ai dit, non, mais... La bière, il faut une usine pour faire ça. Je dis, mais non, ça se fait dans des cuves, à être calé. J'ai un collègue là, qui fait ça chez lui. Là, il est toujours à sec, il a besoin. Il aimerait qu'il y ait des brasseurs qui s'installent. Bah, du coup, il a été entendu, vu que maintenant on est un bon paquet. Mais à l'époque, on était trois. Et, donc, du coup, moi, je dis, je vais me renseigner. Donc, je commence à regarder sur Internet. Donc, je tombe sur des forums de brasseurs amateurs, des mecs qui mettent qui expliquent un peu. Puis, je dis, ça a l'air de pouvoir se faire. Et j'ai trouvé donc une formation à Douai, au Lecta de Douai, donc où il y a un lycée agricole et une unité de brasserie qui était implantée là. Et il y avait le prof de brasserie, on va dire, qui faisait des formations pour adultes le week-end. Donc, j'ai fait plusieurs modules pour découvrir ce que c'était. J'ai vu que ça m'a intéressé, parce que ça touche plein de domaines, en fait, techniques. Et après, j'ai trouvé une formation diplômante à l'Université de La Rochelle, le DU d'opérateur de brasserie à La Rochelle, qui a été financé par mon employeur de l'époque. Donc, merci à eux. Parce que c'est ça. Non, mais ça s'est très bien passé. Le départ, il s'est très bien passé, parce que voilà, je pense que je faisais mon job correctement, puis je n'avais pas spécialement envie que je me barre plus que ça, mais bon. Voilà, et du coup, ils m'ont dit, ok, tu veux te barrer, ça marche, on te paye la formation, et puis voilà, et puis j'ai fait cette formation-là, non, ça c'était en mars 2009, et j'ai fini en août, donc de la même année, 2009, j'arrivais sur Vébron, là, pour installer la première petite brasserie dans la cave du moulin d'Astier de 16 mètres carrés, où je respirais des vapeurs de butane à gogo. Je tenais même pas debout dedans. Enfin bon, ça a commencé comme ça un an ou deux. Et puis après, j'ai brassé chez mon collègue de Saint-Germain-de-Calberte pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je vienne m'installer donc à Saint-Laurent-de-Trèves et monter cette brasserie-là en 2014. Voilà. Et voilà, j'y suis toujours.
Quel chemin, et puis quelle fierté aussi de se dire, finalement, au lieu d'un rêve un peu fou, t'es arrivé à en faire une réalité complètement dingue, finalement.
Ouais, puis je me suis découvert sur ma voie, en fait. C'est ça le truc, parce que des fois, les gens, ils font des boulots plutôt alimentaires, ou ça les intéresse pas vraiment, ou alors c'est un peu la merde, ils sont pas bien payés, ou enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein de gens qui on est obligé de bosser pour rentrer de la caillasse ou quoi, parce que aussi c'est intéressant de travailler, parce que ça, c'est stimulant, enfin, on a besoin aussi de ça, d'avoir une activité quand même. Mais là, du coup, moi, de reprendre la maîtrise de mon temps et de plus avoir de compte à rendre, en fait, c'est ma plus grande avantage. Bon, après, il y a toujours des contraintes, mais. Quand pendant 8 ans, t'es soumis aux horaires, au tic-tac de l'horloge de l'usine, telle heure, et puis que, en fait, tu as toujours des comptes à rendre, et puis que là, tu te retrouves en fait dans un truc où tu maîtrises, tu contrôles ton temps, si t'as envie de te lever, tu te lèves, t'as pas envie de te lever, tu te lèves pas, quand il faut bosser, tu bosses, et en fait, tu bosses aussi par plaisir, parce que c'est, tu te rends compte qu'en fait, que ce que tu fais, c'est ça à quoi t'es destiné. Enfin, je vois pas trop ce que je vais faire d'autre si jamais je devais changer. Je pense pas, je pense que je serai brasseur jusque, si la retraite, un jour j'en ai une, sinon, mais c'est pas grave, je brasserai quand même de la bière, même après, c'est toujours sympa de brasser de la bière. Donc en fait, voilà, et du coup, il faut que ça reste du plaisir. Et donc j'ai eu des phases aussi où c'était pas forcément du plaisir, parce qu'il fallait brasser beaucoup, c'était chiant. C'est pour ça que je te parlais d'adapter aussi les conforts de travail pour que ça reste toujours un plaisir de me lever le matin quand je dois brasser, que je suis content d'y aller, que j'y aille pas reculant, parce que c'est quand même ça qui fait que c'est un métier passion et que j'ai envie que ça le reste. Tu vois, j'ai pas envie d'être contraint, forcé à faire des choses où ça me plaît pas, quoi. Donc il y a toujours des contraintes, mais disons que j'essaie de les minimiser tant que je peux. Et au fur et à mesure d'essayer de conforter aussi l'outil de travail pour que, voilà, là, il y a quelques travaux qui vont être faits, ça va me soulager pas mal certaines opérations. Et puis, c'est cool, quoi. Et
ouais,
puis,
c'est ça, avancer, s'améliorer.
Ouais.
Jamais rester figé.
Non. Et du coup, c'est ça aussi, hein, c'est que quand il y a de la concurrence, tu te remets en question aussi. Parce qu'au départ, on parlait, on était. Donc, il y avait Franck, qui faisait la francoise au Créma. Il y avait Sylvain, qui était à Vébron comme moi, il était à Solperrière et moi j'étais au Moulin d'Astier. Mmh. Et il y avait un pot de bière qui se faisait au Marazaï, Viteuf, mais surtout pour le collectif. Et rien que nous trois on faisait de la vente au public, parce qu'au Marazaï, pas beaucoup. Donc on va considérer qu'on n'était que trois vraiment en vente sur le public. On faisait 10 000 litres cumulés à trois. Et maintenant, moi je fais 20 000 litres tout seul, au bout de 14 ans. Et du coup, on est passé de 3 brasseries à 13 ou 14 dans le secteur. Donc le paysage brassicole, il a changé en Lozère. Moi, je me suis installé, on m'a pris pour un, comment on appelle ça, un marginal. Je dis, t'es brasseur et tout, tu fais de la bière. En même temps, quand tu dis que t'es brasseur, j'ai un pote aussi. J'ai un pote, il fait de la bière et tout. Moi aussi. Bon, enfin voilà. Mais du coup, ça s'est démocratisé.
Ouais, voilà, et finalement, c'est l'offre et la demande, c'est toujours le même truc. Plus il y a d'offres, plus il y a de demandes aussi, finalement. Parce que comme tu dis, t'es passé à 20 000 litres. Ça veut dire que c'est une concurrence saine, finalement.
On se marche pas trop sous les pieds.
Ouais, voilà, vous faites pas les mêmes produits.
Ouais, et on est quand même assez. C'est un peu une confrérie, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de bien s'entendre quand tu fais le même métier que de te tirer dans les pattes. C'est pas le cas partout, d'après ce que j'ai cru entendre de collègues qui sont ailleurs. Mais nous, quand je dis nous, les brasseurs un peu des environs, on se connaît à peu près tous. On a créé une asso de brasseurs des Cévennes, l'UBC, l'Union des brasseurs des Cévennes, où il y a quand même 15 brasseries. Donc sur le Gard et la Lozère, donc on se voit régulièrement. On s'est vu encore il y a deux semaines pour débriefer notre événement qu'on avait fait à Saint-Jean.
La Ronde des Mousses, c'était ça ?
Non, là c'était le Bière Circus.
Bière Circus.
À Saint-Jean. La Ronde des Mousses, c'est le foyer rural du côté de Chanac.
Chanac, oui, exact.
Et là, non, c'était notre événement à nous, mais du coup, on a intégré deux nouvelles brasseries qui sont vers Alès et la Grand Combe dans l'assaut. Donc du coup, ça nous permet d'échanger, de faire des partages de savoir, de se donner des informations, de pouvoir faire des trucs ensemble. Et du coup, on devient plus des potes que des concurrents. Donc si on a besoin d'une dépanne de quoi que ce soit, on peut appeler l'un, l'autre. En fait, on est beaucoup en relation, forcément sur des secteurs proches. Mais moi je suis souvent entre guillemets à la joie pour leur demander un service ou pour normal, c'est les plus gros, ils dépannent, mais ils sont pas obligés. Mais du coup, on a une bonne entente comme ça. Puis quand c'est l'inverse, c'est pareil, quand on peut dépanner un collègue, on dépanne un collègue. Donc c'est quand même plus intéressant comme ça. Et puis du coup, il y a du respect entre les brasseurs. On essaie de ne pas se faire en entourloupe. Enfin, on se fait pas d'entourloupe. Parce que du coup, on se connaît comme humain et pas juste comme entreprise et entité comme brasserie, quoi. Donc c'est quand même. Il y a quand même une bonne ambiance en général entre les brasseurs. C'est quand même quelque chose qui est. Parce que j'ai fait quelques salles, enfin pas des salons, mais à Bessèges, là, le Gard à la bière. Chaque fois, on est content de se retrouver entre nous, goûter les bières des uns des autres, et puis de partager des bons moments. Donc, on est quand même un peu des festifs et des, et des gens qui aiment bien profiter de la vie quand même.
C'est quand même à l'image de la bière et du vin, quoi. C'est boire un bon apéro entre potes, savoir une bonne bouteille.
Enfin, voilà, ouais, ouais, c'est
l'essence même du.
C'est quand même un produit, enfin une boisson de convivialité. Ouais. Donc ça rassemble les gens. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, parce que j'adore le produit, enfin la bière, j'adore ça. Donc du coup, je peux brasser des bières aussi que j'aime, parce que du coup, je ne brasse que des bières que moi j'aime bien boire. Donc voilà. Après, si ça plaît, c'est tant mieux. Hein. Mais aussi, c'est l'histoire du partage, c'est-à-dire pouvoir rassembler les gens autour de quelque chose. Alors pas forcément sur un salon de la bière, mais je veux dire, tu vois, à la fête de la soupe, il n'y a que des bières artisanales, il y a plein de gens, tout le monde éclate, ça réunit les gens, et ça c'est quand même pour ça qu'on fait ça, c'est-à-dire de pouvoir rassembler les gens et les faire se rencontrer, et du coup quand c'est autour d'une bière, c'est génial. Voilà. Nous on connaît ça parce que dans le Nord on fait que ça dans des bars, qu'on est tout le temps en train de sortir une canette, mais voilà, mais ici c'est un peu différent, mais en fait c'est pareil quand même.
C'est ouais, pareil. C'est venu avec le temps, ça c'est vrai. On est en 2024, ça y est, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour cette année? Eh ben, je sais pas que... Du coup, c'est l'année de mes 50 ans.
Oh.
Donc, j'étais moins de bonne cinquantaine. Et non, mais je vais en profiter pour pas faire que bosser cette année, parce que c'est l'année des 50 ans, j'ai envie de faire un peu des trucs différents, de profiter un peu, de pas me focaliser que sur me dire la bière. Enfin, si, je vais faire de la bière, c'est sûr, mais j'hésiterai pas à me sacrifier quelques semaines pour aller me promener ou faire des trucs que j'ai pas fait ou que j'ai envie de faire. Donc ça sera du boulot, mais je vais l'apprendre un peu différemment peut-être cette année. Donc on peut me souhaiter que j'arrive à faire ce que j'ai envie.
On te le souhaite de tout cœur. En tout cas, on va mettre ton numéro sur notre site dans quelques instants, comme ça les gens peuvent toujours venir te voir, t'appeler.
Là hors saison, c'est sur rendez-vous, on va dire, on m'appelle, et puis voilà, si on a besoin de bière, on passe, et puis sinon on peut me trouver plus ou moins au marché le jeudi à Florac, tant qu'il n'y a pas de déluge ou de la neige, s'il fait à peu près correct.
T'es aussi chez les paysans, hein, c'est ça
Alors là, c'est fermé pour l'hiver, là, à Florac. Enfin, en tout cas, celle qui est à côté en face de la Jeunette. Mmh. Mais après, sinon, sûrement, de la maison des paysans de Lozère, là, place René Estoup, derrière la cathédrale. Donc, il y a mes bières aussi. Sinon, on en trouve sur Florac, hein, aussi. Pas de problème.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce Tout un Monde.
Eh ben, je t'en prie, Ben, avec grand plaisir. Toujours sympa.
Ah ouais, carrément.
D'échanger autour de la bière.
Un petit rock'n'roll pour finir.
J'ai encore une chanson.
Allez,
un Melvins.
Melvins, voilà. C'est parti. Merci beaucoup Bertrand.
Je t'en prie, pareil, ciao.